Alors, aujourd'hui, nous continuons notre étude du livre de Josué afin d'apprendre de l'exemple du peuple d'Israël. Et nous allons considérer un sixième principe qui est trouvé en Josué chapitre 4. Donc, je n'ai pas demandé quelqu'un en avance pour lire, mais je pense que c'est important pour nous de lire tout le chapitre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du courage pour lire chapitre 4 pour nous? Nate. D'accord, merci.
Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, retirez d'ici du milieu du Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les Israélites, un de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus israélites. » Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée, et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils retirèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nom des tribus israélites. Ils emportèrent avec eux, et les déposèrent à l'endroit où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, là où s'étaient arrêtés les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Les prêtres qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière réalisation de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, en conformité avec tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple s'empressa de passer. Lorsque tout le peuple eut fini de passer, l'arche de l'Éternel et les prêtres passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Josué donna cet ordre aux prêtres, sortez du Jourdain. Lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, l'eau du Jourdain retourna à sa place et inonda toutes ses rives comme avant. Ce peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois et campa à Gilgal, à l'extrémité est de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous les instruirez en disant, « Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. » Oui, l'Éternel votre Dieu a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux qu'il a asséché devant vous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel votre Dieu. »
Ok, merci Nate. Je sais que c'était long, mais c'est important. Dans la prédication du dimanche dernier, nous avons vu que le peuple d'Israël s'est trouvé à l'est du Jourdain. Le problème était devant eux, mais aujourd'hui nous voyons que le peuple d'Israël maintenant se trouve à l'ouest du Jourdain. Et il a, la semaine prochaine, dernière, c'était, nous avons ce problème. Et qu'est-ce qui a été demandé à Israël? De ne pas regarder le problème, mais regarder de l'arche de l'Alliance, qui était le symbole, la présence qui représentait la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Et maintenant, ils ont traversé, et maintenant, le problème est derrière eux, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent? Dieu leur demande de souvenir des merveilles qu'il a fait au milieu d'eux. Donc, nous voyons que ce grand miracle que Dieu a fait, couper les eaux du Jourdain pour qu'ils puissent traverser vraiment le pied sec. Alors, notre texte ce matin, Dieu demande à Josué d'ériger un monument de 12 pierres comme un souvenir de ce que Dieu a fait. Et ce monument, jouerait un rôle important dans la vie d'Israël pour prendre possession de la terre promise. Il devait se souvenir des merveilles de Dieu. Alors, nous aussi, si nous voulons prendre possession de la vie qui nous attend en Jésus-Christ, nous devons prendre l'habitude de nous souvenir des merveilles de Dieu. Et cette pratique peut transformer notre manière de vivre. En priant le Seigneur, on va continuer de regarder le texte pour apprendre. Seigneur, c'est ta parole. Je prie que tu nous donnes le cœur, la force vraiment pour écouter, pour comprendre et pour voir son application dans nos vies. Seigneur, pour moi aussi, que tu m'aides à m'exprimer en français tout ce que tu as mis dans mon cœur pour dire. Et Seigneur, que par cette étude, nous pouvons être édifiés dans notre foi, transformés. Seigneur, je prie en ton nom. Amen. Donc, la première chose que nous voyons, les pierres commémoratives ont été importantes pour Israël parce qu'elles enseignaient le peuple d'Israël. Ça, c'est la première chose que nous observons dans ce texte. Et l'une des fonctions, alors, des 12 pierres était de provoquer des questions dans les esprits des enfants. Notez les deux versets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire le premier, verset 6 et 7?
L'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée et ses pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites.
Ok, donc ça c'est maintenant le passage termine avec la même chose. Josué le redit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut lire le verset 21 à 22? En fait, jusqu'à 24, j'aurais dit.
Il dit aux Israélites, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, vous les instruirez en disant, Israël a passé le Jourdain, que voici à pied sec. Oui, l'Éternel votre Dieu a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il avait fait à la mer des oiseaux. Qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu.
Les enfants, par nature, les enfants sont curieux. Ils aiment poser des questions, n'est-ce pas? Vous êtes dans la... Papa, pourquoi le ciel est bleu? Bon, parce que l'espace est grand et c'est profond et ça va loin. Mais papa, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Pourquoi l'autre côté de l'espace? Dieu est à l'autre côté de l'espace. Mais pourquoi papa que Dieu veut... Mais je ne sais pas, demande à maman parce qu'elle est mieux pour répondre à ces questions. C'est comme ça, n'est-ce pas, avec les enfants? Dieu les a fait avec cet esprit curieux, pour poser les questions, pour apprendre. Alors, naturellement, quand ils ont vu les pierres, ils ont posé la question, « Papa, que signifient ces pierres ?» Que signifie pierre? Et c'était une opportunité pour les enseigner. La réponse donnée n'était pas postmoderniste. J'ai pensé à ça. Ce n'était pas une réponse postmoderniste où les pierres peuvent signifier n'importe quoi. Bon, mais les pierres peuvent signifier ce que vous voulez que ça elles signifient. Non, ce n'est pas une réponse comme ça. Non, il y a une réponse, une signification concrète et claire. D'abord, ces pierres enseignaient que Dieu est puissant. Les pères auraient dû dire, mon enfant, tu vois le Jourdain qui est là? Le jour que nous sommes arrivés à la frontière de la terre promise, le Jourdain, il débordait ses rives. Mais Dieu a fait un miracle, mon enfant. Il a coupé des eaux du Jourdain pour une distance de 30 kilomètres. Ça, c'est loin, c'est long. Et nous avons traversé le Jourdain à pied sec. Josué a ordonné que 12 pierres soient prises du milieu du Jourdain et placées ici comme un souvenir pour toujours. Elles nous rappellent que la main de l'Éternel est puissante, mon enfant. Donc, ces pierres, comme nous voyons ici, que la main de l'Éternel est puissante, c'était un témoignage de la puissance de Dieu. Dieu est puissant, mais ces pierres enseignent aussi que Dieu est fidèle. Au verset 23, nous voyons que les pères disent « Oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il avait fait à la mer des roseaux. » Qu'il a acheté devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Nous voyons cette réponse ici, quand il dit « tout comme il avait fait ». Le Dieu qui était avec Moïse pour traverser la mer Rouge, il était aussi présent avec Israël à ce moment-là pour traverser le Jourdain. Il est le Dieu, il est un Dieu fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il ne change jamais. Il y a un autre détail historique dans le texte qui montre comment ces pierres enseignent la vérité que Dieu est fidèle. Je n'ai pas affiché, mais si vous avez vos Bibles, regardez le verset 19 dans le texte. Le verset 19 dit que les pierres ont été mises en place quand est-ce? Verset 19. À quel moment?
Le dixième jour du premier mois.
Cette date, c'est la date jour pour jour que les préparations pour le premier Pâques ont été faites. Si vous regardez en Exode chapitre 12, verset 3, il dit « Transmettez ». Dieu dit à Moïse, transmettez ses instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, il y a 40 ans, jour pour jour, c'était le même. Donc, ce n'est pas un détail historique que les Israélites auraient manqué. Comme Dieu était fidèle de délivrer Israël de l'esclavage en Égypte, et de leur faire traverser la mer Rouge, il a montré sa fidélité encore pour la traversée du Jourdain. Dieu ne change jamais, je disais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comme c'est toujours le cas, quand quelqu'un enseigne, il apprend en même temps. Je peux témoigner, même cette semaine, c'était jeudi. J'étais bloqué dans la préparation de ce message. Je viens de parler avec Owen, le secrétaire général, concernant un emprunte pour si nous décidons de continuer. Et j'ai pensé qu'on pourrait avoir un emprunte de 30 ans. Ça veut dire que pour 300 000 euros, on peut avoir la capacité de rembourser dans notre budget le prêt. Et mais il m'a dit, mais non Todd, tu ne peux pas avoir un emprunt de 30 ans. Le mieux que nous pouvons avoir pour une église, c'est 15 ans. Ça change tout. Ça veut dire que nous avons besoin de 100 à 1000 euros de plus. Et j'étais vraiment bouleversé, j'étais découragé, j'étais frustré. Et finalement, j'ai dit à Thierry, moi, je sors de la maison, je vais au parc, Echo Park, Sylvain, le parc qui était tout près de ta maison avant.
Parc du
Bourgueil. Parc du Bourgueil. D'accord. J'étais là devant le Seigneur. J'étais troublé, j'étais un peu, mon cœur, mon âme était agité. Et Dieu m'a dit que toi, mais tu prêches. Ne pas regarder le problème, mais qu'est-ce que tu regardes la rivière?
Oh Seigneur, non, c'est... non, non, pas ça. Donc, mais tu regardes le problème? Il faut me regarder. Et quand nous enseignons, aussi nous apprenons, n'est-ce pas? Et j'étais en train de préparer aussi que je dois regarder de ce que, les merveilles qu'il a fait. Qu'est-ce que nous avons vu déjà dans les premières de, dans le mois passé? Il est fidèle. Donc, je ne sais pas ce, quel est son plan pour nous. Mais nous pouvons avoir confiance en lui. Dieu a voulu que Josué érige ce monument parce que la tendance humaine est d'oublier. Ça, c'est notre tendance. Et quand nous oublions, nous risquons de nous détourner de Dieu. La source, il est la source de la vie abondante, cette vie dont nous, nous parlons, la vie promise en Jésus-Christ. Donc, regardons Psaume 78 à 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ce passage pour nous?
Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous le cacherons. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle. Une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm, armés de leurs arcs, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir.
Ok. Donc nous voyons ici que verset 7, ainsi mettre leur confiance, quand nous nous souvenons des merveilles de Dieu, ce qu'il a fait dans le passé, comme il est enseigné ici, ils mettraient leur confiance en Dieu et n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Mais le problème est que nous voyons ici un contraste. Une génération dont le cœur était inconstant. Les hommes d'Éphraïm, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour de combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes. Et c'est exactement ce que Josué veut dire, que Dieu veut dire à Josué, que ne pas oublier ce que Dieu a fait au passé. La pratique de souvenir des merveilles de Dieu est une pratique importante qui est vue partout dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu se servait des fêtes, des sacrifices, la loi, des rites, des monuments, comme les 12 pierres à Gilgal, pour enseigner et rappeler son peuple de ses merveilles. Regarde encore deux versets, deux passages. Qui vous donne un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Exode 12, 24 à 27?
Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont ce que signifie ce rite pour vous, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte.
Ok, chaque fois qu'ils célébraient le Pâques en famille, nous voyons encore cette même question, que signifie ce rite pour nous, les enfants qui posent? Ah, et donc ils expliquent, ils enseignent. Vous voyez l'importance de se souvenir des merveilles de Dieu. Et quelqu'un d'autre pour Deutéronome 6, 20 à 23.
Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données? Tu nous diras, Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de gros miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner.
Ok, nous voyons cette pratique de se souvenir et, des choses, les rites, les fêtes, la loi, les sacrifices, tout cela était pour montrer Israël, de rappeler de ce que Dieu a fait, qu'il était Dieu. Le Nouveau Testament aussi est plein d'exemples, mais les deux moyens les plus importants, ce sont la célébration de Pâques, du baptême, et la célébration de la Sainte Cène. Ces deux choses sont données par Jésus-Christ pour nous aider, pour nous souvenir des merveilles de Dieu. Donc, et nous serons fortifiés dans notre foi. Donc, nous allons parler un peu plus de cela dimanche prochain. Donc, voilà, les 12 pierres ont été importantes parce qu'elles enseignaient le peuple d'Israël. Mais aussi, les 12 pierres ont été importantes parce qu'elles encourageaient le peuple d'Israël. Voici, je ne sais pas si ça c'est bien, mais ça c'est la mer morte, ça c'est l'arc de Galilée, ça c'est Palestine, la terre promise, et ils ont traversé ici le Jourdain, et Gilgal était le camp qui était juste à côté de Jourdain, à peu près 6 kilomètres, ou non, 6 miles. Je pense que c'était plus, peut-être 9 kilomètres de Jéricho, le premier lieu de bataille. Le texte nous dit que Josué a dressé ses 12 pierres ici, à côté du Jourdain, dans le campement à Gilgal. Gilgal a été la base de toutes les opérations militaires pendant la conquête de Canaan. Vous voyez, ils ont commencé ici au centre, ils ont allé au nord, ils sont allés au sud, et chaque fois il revient ici à leur campement à Gilgal. Donc les soldats voyaient les 12 pierres chaque fois qu'ils partaient au combat, et ils les voyaient chaque fois qu'ils revenaient du combat. Les familles des soldats qui restaient au campement étaient rassurées aussi chaque fois qu'ils ont vu et regardé ces pierres qui étaient là. Donc les pierres étaient un témoin constant que Dieu, que Yahweh, celui qui a aidé Israël à traverser le Jourdain miraculeusement, il sera toujours avec eux. Donc c'était pour les encourager. Nous avons, nous avons besoin de l'encouragement dans notre vie chrétienne. Parfois le chemin est long et difficile, mais nous pouvons compter sur Dieu. Si nous voulons prendre possession de la vie promise en Jésus-Christ, nous aurons besoin de l'encouragement comme Israël. Nous aurons besoin de nous souvenir des merveilles de Dieu au passé pour prendre courage et persévérer à l'avenir. Bon, juste pour quelques illustrations de ma vie, en fait, j'ai des petits trucs comme ça sur mon... Est-ce qu'on dit dresser? Qu'est-ce que... Bureau, quoi. Les moments que Dieu me parle, parfois je prends un petit truc. J'ai déjà vous montré cette collier ici. Vous vous souvenez d'un jeune homme qui s'appelait Noah. Oui, Noah, qui était là pour les vacances et il était... comment dit-on Il a creusé un tunnel dans les dunes Pila et le tunnel est tombé sur lui. Il était 5 minutes dans le sable. Il ne pouvait pas, il a respiré le sable et sa vie était en jeu. Il était vraiment dans une situation critique. Mais nous avons prié en tant qu'église pour lui. Et je suis allé avec Samuel, pas seul Samuel, le nôtre Samuel, pour prier avec lui. Et nous avons vu un miracle. Dans un jour, son état a changé. Il ne savait pas s'il va vivre ou non, mais Dieu a fait un miracle. Et dans une semaine, il est sorti de l'hôpital et j'ai eu une lettre de sa mère, mais ça fait un an maintenant, mais qu'il va bien. Mais c'est juste, pour, Dieu a fait un grand miracle, ils m'ont envoyé ce collier, et je le porte de temps en temps, je le regarde, juste pour me rappeler que Dieu est grand. Il est le Dieu qui guérit les malades, il est le Dieu qui est plus fort que la mort. Et c'est juste pour me rappeler. Ce n'est pas que je porte, quand je prie pour les gens, j'ai fait comme ça, et voilà. Non, ce n'est pas ça, c'est juste un rappel, un souvenir de la grandeur, de la croissance. J'ai ce truc aussi sur mon bureau. Comment ça s'appelle en français? Coquillage. Je vais le passer, vous pouvez écouter. Vous avez déjà fait, je sais. Mais c'est un rappel, Dieu m'a parlé et je... C'est là sur mon bureau pour m'appeler que toi, il faut écouter Dieu. Il t'a parlé déjà, il va te parler. Et donc, c'est pour me rappeler un souvenir pour être encouragé, d'écouter Dieu. Oh, j'ai ce petit truc comme ça qui est sur mon bureau. Je vais passer. Je l'ai trouvé dans le parc Mouron. Il y a les grandes, on dit cèdres. Énormes, les sapins qui sont énormes. Mais ça, c'est le truc qui... Les graines, je ne sais pas comment le dire, il commence par cela. Et ça m'encourage. Dieu m'a parlé. Il a dit que toi, je peux prendre juste un petit truc comme ça. Il est dans l'ADN de chaque chrétien. Il peut devenir quelque chose de grand par son aide. Et donc, c'est pour me rappeler ces choses. D'autres pierres pour moi, ce n'est pas un jeu de mots, mais mon gendre Pierre, il s'appelle Peter, pendant les premières quelques années de leur mariage, il n'avait pas un travail et c'était difficile pour la famille. Et nous avons prié, il n'a pas une formation en tant que tel pour un travail, on a prié. Et c'était, mais un jour, Dieu lui a donné un travail, qu'il a maintenant même la possibilité de devenir manager dans son travail. Donc, maintenant, j'étais encouragé, la puissance de Dieu pour travailler dans sa vie, pour lui donner un travail. Et maintenant, mon fils, il cherche un travail. Et ma fille qui revient, son mari, il va assister pour faire son master, donc c'est elle qui cherche le travail. Donc, je prie pour tous les deux. Mais je suis encouragé parce que je peux regarder ce que Dieu a fait dans le passé. C'est un pierre pour moi, pour me rappeler que Dieu est fidèle et il va donner le travail aussi à mes enfants. Donc, il y a plein de choses. Mais donc, nous avons vu que les 12 pierres ont été importantes parce qu'elles ont enseigné le peuple d'Israël, encouragé le peuple d'Israël, mais aussi... ils sont importants parce qu'elles engageaient le peuple d'Israël. Je m'explique. Nous avons vu aussi verset 24. Josué annonce deux raisons importantes pour ce monument des 12 pierres. Témoigner la puissance de Dieu et appeler le peuple d'Israël à craindre l'Éternel. Donc, regardons de nouveau au verset 24. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. Donc, que signifie vivre dans la crainte de Dieu? Parce que nous voyons la fonction des pierres n'était pas seulement d'évoquer des souvenirs, mais aussi d'inspirer une manière de vie. Vivre dans la crainte de Dieu. Alors, que signifie vivre dans la crainte de Dieu? D'abord, c'est de vivre dans le respect de Dieu. C'est la reconnaissance que Dieu est tout puissant, comme nous voyons ici. Et sa puissance peut s'exprimer pour notre bien, mais aussi pour notre jugement. Nous voyons l'exemple dans l'histoire de la traversée de la mer Rouge en Exode, chapitre 14, versets 29 à 30, 31, nous voyons, il en parle. La puissance de Dieu a été manifestée pour le bien du peuple d'Israël quand Dieu a fondu les eaux de la mer Rouge. Mais nous voyons aussi, en même temps, que pour les forces de Pharaon, qu'est-ce qui était arrivé? Donc, pour le peuple d'Israël, la puissance de Dieu s'est manifestée pour leur donner un passage. Mais pour les forces de Pharaon, après qu'Israël est passé, qu'est-ce qui est arrivé? Les eaux sont tombées, ils se noyaient dans l'eau. Nous voyons une force pour le bien d'Israël, mais aussi une force de jugement contre les Égyptiens. Pensez à l'électricité que nous avons dans nos maisons. Elle est une force puissante qui nous fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Par elle, nous chauffons et nous refroidissons nos maisons. Par elle, nous allumons les appareils qui nous servent, comme le frigo, la cuisinière, la télé, l'ordinateur et d'autres choses. Par elle, nous allumons nos maisons. Elle est une source, de bénédiction. Nous n'avons pas peur. Chaque fois que je mets les lumières, je n'ai pas peur de ce qui va arriver. Mais elle est vraiment une source de bénédiction. Et en même temps, même si nous n'avons pas peur, nous respectons l'électricité. Nous savons qu'elle puisse être dangereuse si on ne prête pas attention. Mais si nous vivons dans le respect de sa puissance, nous bénéficions de sa bonté. Et c'est pareil avec Dieu. Je viens de lire dans mon culte personnel de ce matin, en psaume 103, il a dit que celui qui craint l'Éternel, il va expérimenter, vivre dans la bonté de l'Éternel. Donc, Dieu est puissant. Et cette puissance peut s'exprimer d'une manière pour notre bien ou pour notre jugement. Si nous respectons sa puissance, ça serait pour notre bien. Quand on rencontre véritablement la véritable puissance de Dieu, elle produira une crainte de Dieu en nous. Cette crainte nous conduira à une vie d'adoration, de confiance et d'obéissance. Et nous voyons un exemple de cela dans l'histoire de Pierre racontée ici, dans ce passage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire?
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même, pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, désormais tu seras pécheur d'homme. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent.
Pierre, il a rencontré vraiment la puissance de Dieu. Et quel était l'effet sur cela? Il avait peur, il avait ce Dieu puissant. Mais aussi, il était amené de cette rencontre, la puissance de Dieu, à créer en lui aussi le respect pour Dieu, l'adoration de Dieu, l'obéissance. Et nous voyons ici que alors ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. Suivre. Nous voyons ce que Dieu a fait en Pierre. Le but du monument des 12 pierres était de rappeler le peuple d'Israël de la puissance de Dieu afin de mener une vie d'adoration, de foi et d'obéissance. Il était important de noter que les Israélites ne devaient pas aussi adorer ces pierres. Ce n'était pas le but. Je crois que c'est pourquoi l'une des raisons pourquoi Dieu a ordonné de ne pas tailler ces pierres et aussi de prendre ces pierres du milieu de Jordan. Elles étaient des pierres simples prises du rivière, sans rien pour attirer le regard sur elles-mêmes. mais leur simplicité leur parlait fort. Donc, ce n'est pas les pierres qui sont importantes, c'est ce qu'ils représentent. Et c'est la même chose pour nous. Elles nous apprennent que nous, si nous contemplons les merveilles de Dieu, ça va nous aider à mener une vie sainte. Bon, voilà. Les 12 pierres ont été importantes parce qu'elles enseignaient le peuple d'Israël, elles encourageaient le peuple d'Israël, elles engageaient le peuple d'Israël. Nous pouvons apprendre leur exemple pour nous. Notre but, c'est d'apprendre comment prendre en possession comme la vie promise, comme ils ont pris en possession la terre promise. Et si nous développons l'habitude de se souvenir des merveilles de Dieu, cette pratique peut nous aider aussi à mener une vie de foi et d'obéissance. Et si nous vivons dans la foi et l'obéissance, nous allons nous emparer de la vie promise, la vie qui nous attend en Dieu, en Christ. Donc, pour terminer, je veux donner quelques suggestions concrètes pour développer l'habitude de souvenir des merveilles de Dieu, pour avoir cette pratique. Je suis sûr que vous avez d'autres choses que vous pouvez ajouter. Mais d'abord, observez les ordonnances du baptême et de la Sainte Cène. Ça, c'est essentiel. Et c'est pourquoi nous avons décidé dans notre église de faire la Sainte Cène tous les deux semaines au lieu de chaque semaine pour ne pas avoir de tomber dans le... que ça devienne trop familier. Mais en même temps, nous voulons le faire régulièrement. Peut-être c'est mieux de le faire chaque semaine, je ne sais pas. On va voir. Mais c'est important parce que c'est là que nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous. Et nous renouvelons notre engagement envers lui. Le baptême, c'est la même chose. Nous aurons un autre baptême dans quelques semaines. Demandez au Seigneur de te rappeler des merveilles dans ta vie et note-les. Je vous encourage de prendre un temps, aller dans la nature, parler avec Dieu. Dieu, aide-moi de réfléchir quelles sont les grandes choses que tu as fait dans ma vie. Et note-les. Peut-être vous êtes nouveau en Christ, peut-être vous n'avez pas une grande liste. Donc, Seigneur, montre-moi dans la parole de Dieu les qui peut être les pierres pour moi ou dans les vies d'autres personnes. Mais note les choses qui peuvent t'encourager dans ta vie. Pensez à des façons créatives pour souvenir des merveilles de Dieu. Peut-être un tableau d'art. Vous pouvez acheter un tableau pour mettre sur le mur et faire la peinture pour vous-même. Pour rappeler que Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Peut-être ça peut être un cantique que vous mémorisez ou un objet quelque chose comme ça pour rappeler de ce qu'il a fait. Un journal. Pourquoi pas dans les familles avoir un petit journal qui dit avec le titre « Que signifient ces pierres ?» Et de temps en temps avec la famille, essayer de noter quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Et en parler dans la famille. Prendre le temps aussi dans le culte dimanche de partager pendant le temps de témoignage. Nous n'avons pas tous les dimanches, mais souvent un petit temps de témoignage. Et c'est la raison pour rappeler de ce que Dieu a fait. Juste un mot, donc il faut, quand on témoigne tous ensemble, il faut être concise et courte pour donner le temps à tout le monde, mais avoir un temps pour partager ce que Dieu a fait. Donc, ce sont quelques suggestions. Je sais que c'est déjà long, mais que le Seigneur utilise ce pratique dans nos vies pour nous aider à grandir dans notre vie avec lui. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, que tu nous aides de développer cette habitude, cette pratique, pour se souvenir de tes merveilles, pour être fort dans la foi. Je prie en ton nom. Amen.